Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture. Patrimoine, spectacles, visites et initiatives, l'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi aujourd'hui en studio, Marie-Josée Dine, qui nous a partagé régulièrement cette année ses coups de cœur littéraires, Delphine Bilien, autrice, et la troisième invitée est libraire Sophie Baïf. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour Marie.
Vous l'aurez compris, en trois mots, on va parler littérature, livre, lecture. En bref, on va vous donner envie de lire durant cet été, et c'est parti pour 30 minutes ensemble. Petite anecdote, pour commencer, le service culturel de l'UCO organise 4 fois par an une rencontre littéraire, un book club comme on dit aujourd'hui à l'heure d'internet, qui s'appelle « Lisez pour vivre ». Cela a lieu à la bibliothèque de la Cato, c'est animé par Anne Proutot, qui est enseignante en littérature, et Camille Neveu. Nous étions présentes avec Marie-Josée pour la dernière rencontre de cette année, et un étudiant, Noah, a présenté « Meurtre en Anjou » de Delphine Bilien. Ça nous a fait sourire, bien entendu. Alors voilà, Delphine, il est question de vous en ce moment. Vous êtes auteur, scénariste, vous avez écrit une dizaine d'ouvrages, le premier en 2011. Je ne me trompe pas ?
Tout à fait.
L'écriture n'est pas votre seule activité, vous avez un travail, vous êtes formatrice.
Alors, je l'étais, en effet, je travaille toujours dans le domaine de l'insertion, mais aujourd'hui, je suis ingénieure de parcours au département.
Et vous êtes mère de 3 enfants. Bon, bref, les journées font 24 heures quand même. Je vais vous demander après quand est-ce que vous avez le temps d'écrire, mais d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Il y a de la place dans cette vie-là
pour écrire ? Ce qui m'a donné en effet envie d'écrire, ça a été une première idée d'histoire que j'ai eue justement en 2011. Dans le cadre de mon travail de formatrice et de conseillère en insertion, j'écrivais pour les autres, j'écrivais leur histoire, j'écrivais leurs lettres de motivation, leur parcours. Je me suis dit, pourquoi pas essayer d'écrire moi justement cette histoire ? Est-ce que je peux pas prendre la plume pour essayer de raconter ce chemin qui me hantait un petit peu ? Et donc j'ai tenté ma chance en me disant, de toute façon, ça fera 20 pages. Ça en a fait 120. Et puis, je me suis dit, est-ce que je laisse dans le tiroir ? Est-ce que je vais plus loin dans l'aventure ? J'ai présenté à 2-3 personnes qui m'ont dit, non, il y a quelque chose, il faut aller plus loin. Donc voilà, et c'est comme
et ça
que l'aventure...
Et c'est
qui ces personnes ? Alors, c'était des amis. Voilà, c'était des personnes proches. Alors, parfois, c'est pas toujours les plus objectifs, comme on peut dire. Mais parmi ces personnes, il y avait quand même des gens qui avaient publié, alors pas forcément un roman, mais c'était un livre. Ils avaient déjà eu cette occasion-là. Donc, c'est aussi grâce à eux que j'ai pu aller présenter mon roman qui a été refusé par la maison d'édition. Par contre, l'éditeur avait apprécié ma plume, mon style d'écriture. Et il m'avait dit, donc si vous avez quelque chose plutôt régionaliste, ça nous intéresse. Donc j'avais mis de côté le premier manuscrit et j'avais déjà en tête Mystère de la Rosangine. Et donc je lui ai présenté et il a dit, allons-y.
Donc là, ce premier roman est dans un tiroir pour l'instant.
Non, du tout. Il est sorti entre-temps.
Persévérante.
C'est surtout que ça avait été un peu une forme de défi avec mon éditeur. J'avais dit, très bien, si j'arrive à écouler un certain nombre de livres assez rapidement, s'il part bien, est-ce que vous accepteriez de me sortir mon premier roman ? Parce que j'y tenais beaucoup. Et il m'a dit, ok, très bien, on verra ce que ça va donner. Et puis j'ai obtenu ce que je voulais au niveau des résultats. Donc il a sorti le roman.
Donc finalement, c'est l'exercice d'écrire pour les autres qui a enclenché quelque chose qui était inconscient. Est-ce que vous écriviez petite, un journal,
oui.
Des petites histoires, bonheur
oui.
Et d'ac ?
Pas particulièrement, mais j'aimais beaucoup ça. J'avais par contre un plaisir démesuré de mettre ma musique sur mes oreilles et de partir dans mon imagination. Ça, oui, ça, je pouvais y passer des heures toute seule. D'ailleurs... pour la petite anecdote, c'est quand j'étais petite, on n'avait pas vraiment besoin de s'occuper de moi. Apparemment, j'étais en capacité de créer mes histoires, donc c'était pas difficile de m'occuper. Donc voilà, je pense que c'est plus ça en fait.
Est-ce que vous avez un genre de roman ? Alors, genre préféré ?
J'ai deux genres de romans préférés, ce sont les romans policiers. Les polars, et puis ce qu'on appelle la littérature générale, la littérature blanche.
Est-ce que votre écriture, dans son style, dans ses sujets, a évolué? Parce que maintenant, ça fait 12 ans que vous écrivez.
Oui, ouais. Oui, oui. Alors, j'espère déjà, de un, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé.
Vous êtes critique par rapport à vos premiers romans?
Oui. Je pense que...
Vous avez évolué.
J'ai évolué. Alors, j'espère en bien. J'ai travaillé pour, j'ai pris des cours pour aussi. J'ai pris des leçons. J'ai aussi eu pendant de très nombreuses années quelqu'un qui m'a accompagnée, qui était une ancienne enseignante et qui me corrigeait mes textes, qui malheureusement nous a quittés en début d'année. Et voilà, je pense très fort à elle encore parce qu'elle m'a vraiment aidée à évoluer sur l'écriture. Et quand je relis mes premiers manuscrits, des fois je crie parce que je me dis non, je réécrirai pas ça comme ça. L'histoire, je la garderai, mais le style a changé, effectivement.
Est-ce que vous avez pris des cours où ?
Alors, j'ai pris des cours dans le cadre de masterclass, différentes masterclass, des ateliers d'écriture.
En physique ?
Pardon ?
En physique ?
Non, en distanciel. Exactement. Mais j'ai commencé, ça doit faire peut-être 4 ans et demi, à prendre des cours. Et à partir de là, j'écris aujourd'hui au quotidien.
C'est très anglo-saxon, ça, en fait. On les entend beaucoup dire où ils donnent des masterclass, où ils en prennent, alors que l'écrivain français reste un petit peu, dans sa chambre de bonne, pas chauffé pour écrire. Non, en fait, on prend des cours, on s'améliore.
Pour ma part, en tout cas, ça me paraissait important. Et puis, ça permet d'évoluer. Et surtout, je pense qu'on apprend tout le temps, quoi qu'il en soit. Donc, j'avais aussi envie d'apprendre et d'évoluer dans mon écriture.
Alors, est-ce que vous avez un éditeur? Vous êtes publié par qui? Ça se passe comment, ça? Parce que là, vous avez eu une prof, finalement, un mentor, cette femme, cette enseignante. Mais est-ce que vous avez un éditeur qui, lui aussi, en fait, un éditeur est censé être... prête de le pousser, de demander des chapitres de...
Exactement. Alors, j'ai eu plusieurs éditeurs. J'ai, entre autres, pour justement mon dernier roman, Crime en Anjou, La Geste, Geste Édition, qui est basée sur Niort. Là, au niveau de l'éditeur, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est tous les défis qu'il m'a permis de relever, puisque Meurtre en Anjou fait partie des demandes de sa part. C'est-à-dire qu'il est venu vers moi en me proposant un policier avec un certain nombre de critères qu'il attendait dans ce type de roman. Il m'a proposé Sherlock Holmes en Anjou, où là, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à écrire. Il m'a proposé aussi Georges Sand mène l'enquête et surtout Le Secret de Rose. Donc, Le Secret de Rose, qui est un roman vraiment, là, cette fois-ci, historique. On remonte à l'époque de Fulcanera, donc là, on est au XIe siècle. Ce qui m'a demandé un travail colossal de recherche. Et encore une fois, là c'est vraiment une chance énorme. J'ai pu rencontrer des personnes formidables qui m'ont présenté leur passion, qui m'ont fait partager leur passion de cette période historique et que je remercie encore mille fois. Et là, ça a été aussi très, très riche. Donc, au niveau de l'éditeur, voilà, c'est vraiment aussi ce travail de confiance, de se dire, j'ai la capacité ou j'ai la possibilité peut-être de répondre à cette demande, à cette attente à ce moment-là.
Qu'est-ce que vous souhaitez faire passer à vos lecteurs ?
Alors, je pense que c'est ma déformation professionnelle. En tant que formatrice, j'aime bien qu'on puisse apprendre aussi des choses dans les livres. Donc, le mystère de la Rose Angevine est né comme ça, d'ailleurs. C'était vraiment mon idée principale. C'était de se dire, mais on est sur Angers, on a un patrimoine formidable, on a une ville qui a une histoire extraordinaire. Et j'avais envie qu'on arrive à découvrir peut-être un peu plus ces personnages qui ont marqué l'histoire, alors sans en connaître les détails, mais le roi René, qu'est-ce qu'il avait fait exactement, ou en tout cas, voilà, quelles étaient les grandes lignes. Yolande d'Aragon, Blanche de Castille, on connaît les noms des rues, les Plantagenets, mais derrière ces noms de rue, qui étaient ces personnages? Et donc, c'était de façon un peu ludique que j'avais envie de les faire découvrir aussi aux Angevins et puis aux non-Angevins, bien sûr.
Et vous, quelle lectrice êtes-vous? Vous lisez beaucoup, vous lisez quoi?
Alors, je vais lire par période, souvent, mais je vais lire un petit peu tout. C'est vrai que je vais plutôt parler de ce que je ne lirais peut-être pas ou moins facilement, c'est plutôt la science-fiction ou le fantasy. J'ai peut-être un petit peu plus de mal, mais en fait, l'occasion, le coup de cœur, un conseil, et puis je vais y aller.
Alors Delphine, avant de donner la parole à Marie-Jo, est-ce que vous pouvez nous résumer les 4 tomes de la série « Le mystère de la Rose Angevine » ?
Alors,
en une minute, un pitch.
Un pitch très court. Bon, alors, je vais faire un pitch très court, donc sans en dévoiler trop sur les 3 autres tomes. Donc, pour faire court, le mystère de la Rose Angevine, c'est un personnage principal, Margot Brigot, qui est professeure d'histoire à l'université et qui arrive à Angers en pensant que c'est un heureux hasard, puisque elle se retrouve en même temps à rejoindre sa meilleure amie, Zora. Et en fait, de hasard, eh bien, elle se rend compte qu'on lui a laissé deux enquêtes à mener. Une enquête policière, puisque ses parents sont morts 24 ans plus tôt dans cette même ville, ses parents biologiques, et une enquête historique. Et donc, au travers d'un code qu'on lui a laissé et qu'elle va devoir déchiffrer, elle va remonter dans l'histoire de la ville et on va alors à la fois parcourir l'histoire de notre ville, l'histoire un peu plus internationale parfois, et puis eh bien on va suivre la vie de Margot. Donc c'est pour ça que je n'en dévoile pas plus
non,
sur les autres tomes.
Marie-Jo va en parler là.
Mais voilà. Marie-Josée, vous avez lu Delphine Bilien, hein. C'est d'ailleurs à votre initiative et en préparant cette émission sur, les idées de lecture pour l'été qu'on a lancé l'invitation et voilà, Delphine a répondu, c'est super. Alors Marie-Josée, pourquoi ce choix ?
Alors moi, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que Patrick Modiano qui fait la part belle à la ville où il réside, Paris, devenu inséparable de son identité littéraire. J'ai lu d'une traite les 4 tomes, intitulés donc « Le mystère de la rose angevine » de Delphine Bilien. Angers y est donc le principal personnage pour moi et c'est un vrai régal. D'autre part, Lola Lafont, une autre écrivaine que j'affectionne, raconte être heureuse d'écrire car, dans ce genre d'activité, elle a le bonheur de se donner tous les pouvoirs. Eh bien, j'ai retrouvé chez Delphine Bilien ce droit. Et elle va très loin. Quelques exemples. Vous avez parlé de Margot Brigaut, la narratrice principale. On rentre dans son appartement, elle trouve des post-it d'avertissement dans sa douche, alors que la porte d'entrée était fermée à clé. Ce fut quand même mon premier questionnement. Plusieurs personnes font les mêmes rêves, indicateurs en même temps. Dans les situations extrêmement difficiles, un ange gardien apparaît, à point nommé, en l'occurrence Ben. Margot voit avec les mains et dénoue ainsi des mystères. Margot part aux USA sur un coup de tête, sans visa, sans rien. Un clic sur Internet et la voilà dans l'avion, pour revenir le lendemain, ou presque. Margot, bien abîmée et donc hospitalisée, quittera incognito sa chambre et reprend ses démarches, toujours fructueuses. Margot saute souvent dans le vide, et le saut dans les airs au puits du fou est spectaculaire. Elle plonge aussi dans les rivières et elle s'en sort indemne. Enfin, le plus incroyable, plusieurs personnes que l'on croyait mortes réapparaissent comme par enchantement. Et le lecteur, ou plutôt la lectrice que je suis, ne trouve rien à redire. Ça marche. Qu'il soit cartésien, incrédule, dubitatif, on tourne les pages avidement, car les histoires sont enrobées d'une folle imagination qui font un bien fou. Elles ne sont jamais prévisibles. Le style est riche, haletant. Delphine Bilien écrit, tambour battant. Les dialogues sont savoureux. On apprend beaucoup de secrets ou d'informations sur l'histoire d'Angers. Comme par exemple, en passant devant le château, elle rappelle que la forteresse a vu ses tours baisser de 8 mètres pour faire des remparts plus épais. Que le schiste du parc Saint-Nicolas, où Margot fait du jogging, a permis de bâtir notre château et la cathédrale Saint-Maurice. Et chose surprenante, l'abbaye du Ronceret doit son nom à une ronce qui poussait obstinément au pied de la statue de la crypte. J'ai particulièrement aimé les passages qui font entrer le lecteur dans des constructions secrètes et invisibles du château, mais aussi la rue Boinet, quai des Carmes. Un autre point fort, dans vos romans, il y a très peu de descriptions de lieux ou des bâtiments qui pourraient être ennuyeuses, mais vous nommez, comme Modiano, toutes les rues, les ponts, les places que Margot parcourt. Elle dit se garer près de la bibliothèque Toussaint, son appartement se situe entre la place de la Rochefoucauld et les greniers Saint-Jean. Le lecteur y déambule en imagination comme s'il y était. Vous avez l'art de dessiner aussi en quelques coups de pinceau vos personnages et vous avez un sens aigu de l'observation que vous rendez à la perfection. Vos descriptions pointues de choses insignifiantes, comme par exemple une table, vous rapproche du style, à mon idée, de Georges Simenon, qui excellait dans ce domaine.
Bravo. Si personne n'a envie de lire Delphine Bilien, là, c'est pas possible. Les prochains, le dernier roman noir, c'est Crime en Anjou, que vous avez résumé tout à l'heure. Là, hein.
Oui, voilà.
Donc on a vraiment le choix. Moi, j'ai lu Meurtre en Anjou. Donc là, ça...
Moi, j'ai lu Crime.
Crime. on s'est dispersé les livres. Je vais revenir avec vous, Delphine Bilien. Vous êtes aussi scénariste. Et j'ai été surprise d'apprendre que vous avez aussi là, vous êtes formée à l'écriture de scénarios. On pourrait penser que quelqu'un qui écrit des romans, bah, c'est écrit. Pourquoi se former à l'écriture de scénarios? C'est vraiment particulier?
C'est particulier. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Non seulement l'écriture du dialogue, et surtout l'écriture eh bien, de tout ce qui va être la présentation du projet. Puisque lorsqu'on présente un projet, on présente un synopsis. Mais le synopsis ne s'écrit pas comme on va pouvoir rédiger un roman, bien au contraire. On va être obligé de prendre l'angle de la caméra, donc tout l'aspect émotion, tout le côté un petit peu introspection des personnages, on est obligé de les enlever. Donc c'est vrai que ça vient épurer entre guillemets notre texte pour aller sur l'action, en tout cas de voilà. C'est vraiment pour moi un exercice total.
Vous avez un agent pour ça et vous êtes en duo pour écrire vos scénarios pour l'instant.
Alors on est pour l'instant sur. Alors je travaille avec un co-auteur, donc on a plusieurs projets qui sont en attente. Je croise les doigts pour que ça
nous
puisse
aussi
fonctionner. Exactement.
Nous aussi. Merci beaucoup. Delphine Bilien. On va prendre une petite pause musicale avec Imagine Dragons, c'est leur titre Bones. Ça fait partie des morceaux que vous écoutez pour écrire, Delphine. Voilà, vous nous avez raconté ça, donc
oui.
On y va, on écoute ce que vous écoutez pour écrire, ça va nous inspirer.
Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a tree shadowing what's happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay.
Voilà, on a écouté Imagine Dragons, source d'inspiration pour Delphine Bilien. Vous êtes toujours sur France Culture, Radio Campus Angers, et notre émission Lisez, c'est l'été. On va vous donner des idées de lecture. Marie-Josée, je reviens vers vous. Marie-Josée Dean, vous êtes passionnée de littérature. Vous avez un blog, un compte Instagram, ça s'appelle Fumée de lecture pour nos lecteurs qui veulent aller voir. Vous êtes membre de deux jurys littéraires, bref, une influenceuse. Hein,
bah,
si.
C'est beaucoup
de
dire.
Et là, en fait, vous me partagez souvent vos lectures et je suis vos comptes, donc je vois bien ce que vous dites. Et là, vous avez vraiment eu un coup de cœur énorme que vous voulez partager à nos auditeurs. Vous avez choisi de nous présenter, le titre c'est « Avec toi, je ne crains rien » et l'auteur Alexandre Duyck.
Oui, c'est un roman qui est sorti en avril dernier. Et Alexandre Duyck s'est inspiré pour ce roman d'une histoire vraie, qui est une véritable tragédie. Je vous dis le résumé. Louise, institutrice, et Joseph, cordonnier, se sont mariés en 1929. Ils possèdent la plus belle maison du village et ils sont bien intégrés. Ils ont 4 enfants. Ils habitent dans les Alpes suisses. Joseph va tous les étés voir ses vaches qui pâturent en altitude. Il faut plus de 10 heures de marche pour y parvenir. Il dort dans sa cabane là-haut et y repart le lendemain. 13 ans après leur mariage, Louise veut accompagner Joseph. Ce sera, dit-elle, son cadeau d'anniversaire. Joseph est estomaqué et réticent, car Louise n'a pas l'habitude de la marche et 2500 mètres de dénivelé devraient lui faire peur. Mais elle veut y aller, car comme le titre l'indique, « Avec toi, je ne crains rien ». Son époux, qui ne peut rien lui refuser, accepte. Ils partent le 15 août 1942. Ils confient leurs enfants aux voisins et les rassurent. Ils sont de retour le lendemain. Les enfants, âgés de 12, 7 et 4 ans, ne reverront jamais leurs parents. En effet, Louise s'est vite aperçue que c'était dur. Elle peinait dans la montée et elle a fait prendre du retard au couple. D'ailleurs, elle voulait faire demi-tour. Impossible, lui a dit Joseph, c'est trop risqué. Puis, un orage terrible les surprend, les aveugle, et ils tombent dans une crevasse ensevelie de neige. On ne les retrouvera jamais, malgré des recherches. Les enfants seront placés et les langues de vipères dans le village iront bon train, insinuant que le couple aurait abandonné leurs enfants. Toute leur vie, les enfants ont espéré, cherché, prié, en vain. Or, en 2017, 75 ans plus tard donc, lors d'un entretien du téléphérique construit depuis, un ouvrier aperçoit une paire de chaussures dans la neige que le réchauffement climatique a fait apparaître. Il s'approche et en grattant un peu, il découvre un couple enlacé, gelé et intact. C'était Louise et Joseph. La découverte a fait grand bruit et un journaliste a rencontré une fille du couple dans un EHPAD âgée de 87 ans. Elle lui a raconté sa vie et celle de ses frères et sœurs avant et après le drame, comme si c'était hier. C'est un récit romancé bouleversant et écrit avec une absolue délicatesse.
Merci Marie-Josée. C'est « Avec toi, je ne crains rien » d'Alexandre Duyck. Alors c'est bien d'avoir des idées de lecture, mais il faut se fournir. Il faut se fournir en livre, il y a plusieurs possibilités. On va en suggérer une, le Bibliovore. C'est une librairie de seconde main située place de la République à Angers. Des livres en excellent état, une offre de prix attractive et très simple. Un livre, 4 euros, 3 livres, 10 euros. Bien. Sophie Baïf, bonjour. Vous êtes à la tête du Bibliovore et vous offrez un vrai service de libraire, c'est-à-dire qu'il y a des conseils de lecture pour les clients. Ils aiment ça, les petites notes comme dans les librairies classiques?
Oui, alors je me permets juste une petite correction, c'est un livre 3 euros et 4 livres 10 euros. Oui, les clients aiment beaucoup les coups de cœur.
Excusez-moi. Vous avez aussi des idées de lecture, parce que vous en proposez dans votre librairie, hein, je
pléthore.
L'ai dit, vous en proposez beaucoup, faites des petites fiches comme dans les librairies classiques. Allez-y là, quelle est votre suggestion de lecture pour nos auditeurs de France Culture?
Alors je vais commencer également par un énorme coup de cœur, alors qui a un peu marqué les sorties littéraires de ces dernières années, c'est Paresse pour tous de Adrien Clent. On est entre l'essai et le roman, entre l'utopie et le réalisme. Vous le trouverez rangé soit en romans sociaux, soit en dystopie. Le pitch est assez simple, si on ne travaillait plus que 15 heures par semaine.
Waouh, ça fait rêver beaucoup peut-être, pas tous.
C'est la proposition du prix Nobel d'économie Adrien Long dans son essai « Droit à la paresse au XXIe siècle ». Poussé par son entourage et débordé par le succès mondial de son livre, Émilien se jette à l'eau et se présente à la présidence de la République. Donc comme je vous le disais, on va être là sur un mix entre roman et essai, décroissance, écologie, société, Le livre a pour seul défaut d'être manichéen, mais je le conseille vraiment ardemment. On le prend comme on veut, comme un essai ou comme un roman. La plume est facile à lire. Et la bibliographie, très intéressante pour les gens qui voudraient creuser le côté essai.
Est-ce que vous en avez un autre ?
Alors, j'en ai un autre, beaucoup plus léger. Vraiment, la lecture de saison
d'été.
que je viens de terminer. Sarah Perchetti-Amo, de Serena Giuliano, à écouter avec la playlist proposée à la fin du livre. C'est très sympa.
Alors, le titre, c'est Sarah Perchetti-Amo.
Exactement.
Et l'auteur ?
Serena Giuliano.
Serena Giuliano.
Donc, le pitch. Deux couples se retrouvent sur l'île de Procida pour les vacances. Alba, Valentin et leur bébé. Et Nino, qui leur présente sa petite amie Gabrielle. Donc on va parler là d'amitié, de postpartum, de féminisme, de passé présent et de remise en question du couple. Tout ça sur un ton léger, une plume très facile à lire.
Léger, mais il y a toujours un petit fond avec vous. Hein.
Tout à fait.
Alors je rappelle, le livre c'est 3 euros.
Oui.
Et les 4 livres c'est 10 euros.
Tout à fait.
Sophie Bailly, vous êtes déjà venue nous parler du Bibliovore. C'était l'émission du 23 au 25 octobre 2023.
Oui.
Ici, vous êtes déjà venue à la radio au sous-marin. Donc nos auditeurs qui veulent aller réécouter ces émissions, il faut aller dans les podcasts de la rédaction sur le site de Radio Campus Angers. Merci beaucoup.
Avec
Alors,
plaisir.
On va finir avec vous, Delphine, parce que ben, je vous ai aussi demandé de parler d'un autre livre qu'un de ceux que vous avez écrit. Vous lisez d'autres choses, vous avez aussi une suggestion pour nos auditeurs. Il s'agit de Élisabeth et le livre des âmes seules. L'auteur, c'est Anaïs Bonaventure. Vous lancez ? Qu'est-ce que ça raconte ?
Exactement. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le fait que j'avais 3 enfants, effectivement, dont ma plus jeune a 6 ans et demi. Et donc, je partage aussi avec elle la lecture et avec les grands également. Mais là, c'est plutôt pour ma petite. Donc, Élisabeth a 9 ans et a une imagination débordante. Passionnée par les histoires fantastiques, elle adore passer du temps en compagnie de Tim, son ami imaginaire. En vacances dans un manoir breton, Élisabeth est attirée par une mélodie envoûtante émanant d'un livre ancien. En l'ouvrant, elle découvre avec stupeur une illustration la représentant face à une ombre terrifiante. Elle se retrouve alors propulsée dans les mondes des mythes et légendes, accompagnée d'une créature celtique à l'allure de chat noir. Une menace obscure rôde et la fillette devra affronter sa plus grande peur.
Ça vous ressemble bien,
l'énigme,
pourquoi vous avez aimé ? J'ai répondu à la question en fait, excusez-moi, mais c'est vrai que ça vous ressemble un peu.
Alors moi j'ai choisi de présenter ce livre parce que j'ai trouvé ce récit plein de poésie. Dans ce roman, l'héroïne se trouve aux prises avec ses propres cauchemars, réalité ou imagination. Mais lorsqu'il lui faut affronter le monstre qui hante ses nuits, elle trouve justement dans son imagination les ressources nécessaires pour poursuivre l'aventure et surmonter les obstacles. Ce livre est parfait pour moi, pour partager un moment avec petits et grands. J'ai beaucoup aimé, justement, la façon dont l'auteur a su mettre en avant les bienfaits de la créativité, surtout pour une héroïne avec laquelle il nous est facile de nous identifier et de nous reconnaître plus jeunes.
Merci beaucoup Delphine, merci Sophie, merci Marie-Josée. Un grand merci donc à toutes les trois pour votre disponibilité pour cette émission et des idées de lecture pour nos auditeurs de Franche Culture. C'est la fin de ce Franche Culture, c'était le dernier de la saison 2023-2024. On va se retrouver en septembre. On va se retrouver le 18 septembre, très exactement, pour 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci beaucoup à Étienne qui a assuré la technique avec beaucoup de bienveillance et de patience toute cette année. Retrouvez-nous cet été en podcast sur le site de Radio Campus Angers à la rubrique Rédaction. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très bel été à tous.
À retrouver sur le www.radiocampusangers.com.